Bonjour. Eh bien voilà, c'est Glissando. Je suis contente de vous retrouver. J'espère vous aussi. Hein, et vous êtes toujours bien sûr sur Graphite 94.9 FM hein, pour de la belle musique. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage. Eh oui, je vous emmène aux États-Unis pour rencontrer James Horner. Il est né en 1953 à Los Angeles, en Californie, et il est mort le 29 juin 2015. Il avait 62 ans, près de Santa Barbara en Californie toujours. Et c'est donc un compositeur de musique de film américain. Voilà, j'ai poursuivi ma série musique et cinéma. J'espère que ça vous plaît. James Horner, c'était le fils d'un couple d'immigrés autrichiens. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 5 ans et passa ses jeunes années à Londres, où il alla au Royal College of Music. Il a obtenu plus tard un diplôme de premier cycle à l'Université de Californie du Sud, puis un master. Alors, il a commencé à travailler son doctorat à l'Université de Californie à Los Angeles et après plusieurs compositions pour l'American Film Institute. Au cours des années 1970, il cessa d'enseigner la théorie musicale à l'Université de Californie et se tourna vers la composition de bandes originales. Il est connu pour avoir introduit des éléments musicaux électroniques et des chœurs dans nombre de ses partitions musicales. Et alors, voilà, il y a une musique que vous connaissez tous, mais vous ne saviez pas que c'était James Horner qui l'avait composée. Eh oui, c'est la musique magnifique de Titanic qui lui a valu plusieurs récompenses, dont 2 Oscars, un Golden Globe et 2 Grammy Awards. Alors, je vous rappelle quand même, Titanic, c'est un film dramatique, hein, américain. Il a été écrit, produit et réalisé par le fameux James Cameron. Il est sorti en 1997, voilà, ça fait déjà un petit moment. Et il est basé sur le naufrage, en fait, d'un bateau, Titanic, et met en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. C'était l'histoire, vous rappelez, de 2 jeunes passagers, l'une Rose, qui est une passagère de première classe, qui tente de se suicider parce qu'elle veut se libérer des contraintes de son entourage, voilà, qui est quand même une grande bourgeoisie, et le second Jack, qui est un vagabond embarqué à la dernière minute en 3e classe pour retourner aux États-Unis. Ils se rencontrent par hasard, lors de justement la tentative de suicide de Rose, et vivent une histoire d'amour torride, vite troublée, hélas, par le naufrage en fait du navire. Eh bien, je vous propose My Heart Will Go On de James Horner et voilà la plus belle musique avec Titanic. Thank you. Ah, cette musique de Titanic, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en voyant ce film, j'en ai pleuré, c'était tellement beau. Allez, je vous emmène de nouveau aux États-Unis avec un compositeur, chef d'orchestre, pianiste, né à New York en 1932. Il est fils d'un percussionniste professionnel. Il découvre très tôt la musique, commence à apprendre le piano, puis apprend le trombone, le tuba, la trompette. Dès 15 ans, il mène déjà son propre groupe de jazz. Il a ainsi une solide connaissance des instruments et de leurs possibilités. Et ça, ça va beaucoup lui servir. Alors, qui est-ce ? Il est principalement connu pour ses musiques de films. On lui doit le renouveau des bandes originales symphoniques avec ce qui reste son œuvre la plus célèbre, la musique de la saga Star Wars. Alors ça y est, la guerre des étoiles, ça vous dit quelque chose ? Eh bien oui, bien sûr, il s'agit de John Williams, compositeur attitré de Steven Spielberg et de George Lucas. Il a composé au cours d'une carrière qui s'étend sur près de 60 ans, un grand nombre des plus célèbres musiques de films de l'histoire d'Hollywood. Alors avec Star Wars, Les Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, La Liste de Schindler, oh là là, et puis aussi Harry Potter, voilà. Eh ben dites donc, avec tout ça, voilà. Il a même écrit la musique pour la cérémonie d'investiture du président Barack Obama, et de nombreuses d'ailleurs aussi séries télévisées. Alors, je vous ai fait une petite checklist. Voilà, on ne pouvait pas tout avoir ce matin parce qu'une heure, ça passe très, très vite. Mais du coup, je vous propose d'abord Star Wars, qui est une saga américaine, donc créée par George Lucas, comme je vous le disais. C'est de la science qu'ils appellent fantasy. Et c'est un feuilleton spatial, diront les autres. Elle est composée de 9 films principaux et de 3 films dérivés. Bah dites donc. Les 6 premiers films de la saga principale ont été produits, écrits et supervisés par George Lucas. Alors, eh bien, c'est l'Orchestre Symphonique d'Utah qui va vous proposer l'œuvre que vous adorez certainement aussi. Eh bien, si vous n'étiez pas réveillé ce matin, ça y est, c'est chose faite. Hein. Avec Star Wars, ça déménage. Vous voyez, l'orchestre symphonique, magnifique. Oh là là, on a envie de faire partie des musiciens qui ont enregistré cette belle musique. On va rester toujours donc avec le même compositeur, donc avec John Williams. Alors, c'est quelque chose de complètement différent que je vous ai choisi maintenant. C'est la liste de Schindler. Ce film est sorti en 1993 et en fait c'est une adaptation du roman La liste de Schindler de Thomas Kinley. L'histoire, je vous la rappelle, l'homme d'affaires Oscar Schindler arrive à Cracovie en 1939, prêt à profiter de la Seconde Guerre mondiale qui vient de commencer pour faire des affaires. Voilà. Après avoir rejoint le parti nazi, pour des raisons politiques, il emploie en fait des ouvriers juifs dans son usine. Mais lorsque les SS commencent à exterminer des juifs dans le ghetto de Cracovie, Schindler fait en sorte quand même que ses ouvriers soient protégés pour maintenir son usine en activité, bien sûr. Mais il a quand même sauvé beaucoup, beaucoup de vies innocentes. Alors nous allons écouter la liste de Schindler. Thank you. C'est émouvant, vous ne trouvez pas, ce beau thème de la liste de Schindler, qui était joué au violon par Renaud Capuçon, qu'on connaît beaucoup. Beaucoup le connaissent, hein, puisqu'on entend parler beaucoup de lui, fait beaucoup de concerts. Et il était accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles. On va s'adresser maintenant un peu peut-être aux plus jeunes, mais peut-être les plus vieux, regardez aussi ce film. Alors, c'est La Chambre des Secrets, ça vous dit quelque chose? Mais oui, c'est Harry Potter. Voilà le film fantastique qui est sorti en 2002. Il est adapté, pareil, du roman du même nom, de Rowling, et constitue le deuxième volet de la série de films Harry Potter. Alors, il y avait aussi l'école des sorciers, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Voilà, je ne connais pas tout. Hein. Je ne suis pas une spécialiste d'Harry Potter. J'en ai vu un film et j'ai trouvé ça sympa. Mais bon, voilà. Mais je pense que les plus jeunes, ils auront à cœur d'entendre cet extrait de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je pense qu'Harry Potter, il a réussi à se sauver, que les sorciers ne lui ont pas fait trop de mal. Donc c'était Harry Potter et de toujours de notre cher John Williams. Alors là, vous allez avoir peur. Bon, ben, tant pis pour vous, hein, parce que c'est un film de science-fiction sorti en 1993. Il est adapté du roman homonyme de Michael Crichton, publié en 1990. Il met en scène un parc d'attractions et animaliers sur une île fictive nommée comment ? Isla Nublar, située dans l'océan Pacifique, au large du Costa Rica. Alors, si vous avez vu ce film, vous connaissez l'histoire. Si vous ne l'avez point vu, je vous raconte quand même ce qui se passe. Alors, c'est l'histoire d'un milliardaire et de son équipe de généticiens qui parviennent en fait à ramener à la vie des dinosaures grâce au clonage. Il y a un petit groupe de visiteurs qui est invité à découvrir le parc pour confirmer sa viabilité avant son ouverture. Malheureusement, la visite tourne à la catastrophe parce qu'il y a un acte de sabotage industriel qui provoque l'arrêt des installations électriques et du système de sécurité du parc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les horribles et grands, énormes dinosaures qui étaient enfermés dans des cages en fer très efficaces, comme le système électrique ne marche plus, les portes s'ouvrent. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les dinosaures sortent et le groupe doit alors lutter pour sa survie et pour pouvoir aussi échapper, en fin de compte, de l'île pour pas être mangé ou écrasé par les dinosaures qui partent dans tous les sens. Voilà. C'est un film qui fait très très peur. Oh, bon, j'espère tout de même que vous n'aurez pas trop peur. Oh, j'espère que vous avez pu échapper aux dinosaures, les dinosaures de Jurassic Park. Eh bien, oui, heureusement, parce que vous êtes sur Graphite 94.9 et vous êtes dans l'émission Glissando qui est là pour votre bien-être musical. Allez, on part avec un autre film de nouveau de John Williams. Alors, c'est un peu plus triste, on va dire, mais plus sérieux. C'est « Il faut sauver... » Le soldat Ryan, c'est un film de guerre, donc réalisé par Steven Spielberg aussi, sorti en 1998. Le film met en scène des soldats américains qui, dans la confusion du début de la bataille de Normandie, ont pour mission de retrouver un soldat, un seul, dont tous les frères sont morts au combat. Non, c'est vraiment pas de chance pour cette famille. La reconstitution très réaliste du débarquement de Normandie est vraiment un des points forts du film. Alors, avec cet extrait, en fait, on imagine, si vous l'avez vu, vous le verrez dans votre tête, si je puis dire, les forces alliées débarquent à Omaha Beach. Miller doit conduire son escouade derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement dangereuse. Trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan, dont les trois frères sont morts au combat, en l'espace de 3 jours. Pendant que l'escouade progresse en territoire ennemi, les hommes de Miller se posent des questions et se demandent s'il faut vraiment risquer la vie de 8 hommes pour en sauver un seul. Eh oui, c'est un gros dilemme. Eh bien, on va donc écouter le « Il faut sauver le soldat Ryan ».
Thank you.
Eh bien, rassurez-vous, ils ont pu sauver le soldat Ryan. Donc ce magnifique film encore de John Williams. Eh bien, on pourrait passer comme ça des heures et des heures à écouter toutes les musiques de John Williams, mais je suis là quand même aussi pour vous faire découvrir d'autres choses. Alors, nous allons partir maintenant en Roumanie pour retrouver un compositeur qui s'appelle Vladimir Cosma. Il est auteur de 200 compositions, tant pour le cinéma, le théâtre, le dessin animé, l'opéra, la musique de chambre. Forcément, il a marqué l'histoire du cinéma français de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est né dans une famille de musiciens. Il a appris le violon, la composition au Conservatoire National de Bucarest. Et puis en fait, il est venu aussi après à Paris pour étudier auprès de la célèbre pédagogue Nadia Boulanger, qui était une super pianiste et très très grande pédagogue. Après, il est parti en tant que violoniste concertiste faire des tournées à travers le monde. Il a composé des pièces pour orchestre symphonique, des musiques de scène, de ballet. Mais en 1966, à sa rencontre avec un grand, célèbre Michel Legrand est décisive pour la suite de sa carrière. Parce qu'elle lui ouvre les perspectives de la musique de film. Et voilà, et c'est comme ça qu'il y a un premier succès avec la bande originale du film Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Et c'est le début d'une grande collaboration d'ailleurs avec ce metteur en scène. Alors il a fait bien sûr de nombreuses partitions pour le cinéma et la télévision, notamment pour Gérard Houry, Francis Weber, Claude Pinoteau, Claude Zidi, Ettore Scola, Yves Boisset, mais sans délaisser pour autant la composition classique. Il a écrit aussi pour des musiciens tels Chet Baker, Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty, Nana Mouskouri, Diane Dufresne. Vous voyez, c'est vraiment un spectre très très large. Parallèlement d'ailleurs à sa carrière de compositeur, il se contracte aussi à la direction d'orchestre et à l'arrangement de ses propres musiques de films, donc il dirige régulièrement lors de concerts symphoniques, comme d'ailleurs en 2010, avec l'Orchestre National de l'Île-de-France au Théâtre du Châtelet à Paris. Je vous propose un extrait d'un film que vous connaissez peut-être moins, qui s'appelait « La cible ». Et cet extrait, c'est le Concerto de Berlin. L'histoire, c'est celle d'un journaliste et écrivain, Bastien Grimaldi, qui était en fait tenu ce rôle par Lino Ventura. Et il vit avec son fils mineur Pierre, Carole Beffa, à Paris. Il a une histoire d'amour secrète avec sa collègue, mariée. Après, il rencontre son meilleur ami, Jean, et sa femme, laquelle est amoureuse de Bastien. La fille adoptive de Bastien, Laura, est une jeune violoniste qui travaille à la Philharmonie de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan, très grand chef d'orchestre. La mère de Bastien est une artiste peintre qui vit dans une villa de la banlieue parisienne. Mais un soir, Bastien a été agressé et battu par deux hommes dans la rue. Aïe, aïe, aïe. Mais que se passe-t-il? Alors là, il faut aller voir. Ah bah j'ai fait une petite erreur dans mes CD, mais c'était tellement beau, je voulais pas couper ça comme ça directement. Alors cette fois, je vous mets quand même la cible. Tout en écoutant le violon magnifique de Renaud Capuçon et l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, je voulais vous dire au revoir, à la semaine prochaine. On se retrouvera pour Glissando avec un nouvel opus de musique de film. Et nous terminons donc avec... avec cette belle musique de Vladimir Kosma. À bientôt. À bientôt sur Glissando. Bonne journée.